La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Michel Cayolle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes trésorière de l'association Les Amis de Peyrebrune. Peyrebrune qui est un site historique qui se situe au cœur du domaine du Lévézou. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de ce site?
Alors, ce site se situe sur la commune d'Andrance. La tour de Peyrebrune fait partie de l'ancien château. On trouve trace du château à partir du 12e siècle, 11-12e siècle. Le reste du château a été détruit par suite de batailles, surtout la guerre de Cent Ans. À cette époque-là, on dit que le prince noir d'Angleterre aurait séjourné à Peyrebrune et qu'il aurait enfoui un trésor caché, un veau d'or, qu'on n'a pas encore trouvé. Et puis, c'est surtout à la Révolution, en 1630, le château il a été détruit par Richelieu. Parce que la région était devenue protestante et Richelieu a fait détruire le château et n'a épargné que cette tour. Cette tour a été rachetée par deux prêtres qui étaient prêtres à Alrance, à la paroisse d'Alrance, en 1898. Parce que cette tour, il y avait des paysans qui avaient commencé à la détruire. Alors ils l'ont rachetée, ils l'ont consolidée, ils ont construit un escalier pour monter au bout. Et sur la plateforme, en haut, ils ont érigé un piédestal et ils ont mis une vierge dessus. Et au bas de la tour, on suppose que c'était les oubliettes. Et là, ils ont instauré une chapelle, une toute petite chapelle.
Donc on ne voit plus que la tour actuellement.
On voit que la tour actuellement.
L'association Les Amis de Peyrebrune est une association donc qui a été créée en 2002.
En 2002, oui.
Et qui en est à l'origine?
Alors c'est la mairie. La mairie d'Alrance.
Et elle regroupe pas mal de bénévoles.
Alors, en 2002, quand l'association a été mise en route, on était à peu près une trentaine d'adhérents. C'était un tout petit groupe. Alors, en 2011, nous sommes quand même 169 adhérents. Mais bon, il y a beaucoup d'adhérents, mais des bénévoles, il n'y en a pas 169. Non, c'est pas, faut pas rêver. Les bénévoles, il y a à peu près une dizaine de bénévoles qui travaillent sur le chantier. Et en plus, une quinzaine de bénévoles qui assurent les visites de la tour.
Alors, quels sont les objectifs de l'association?
Alors, les objectifs de l'association sont de retrouver et de mettre à découvert tous les murs du château, de l'ancien château. Parce qu'il y avait, c'était un château assez important. J'ai un plan, là, alors le château, en fait, tout le domaine, ça faisait 150 mètres sur... une cinquantaine de mètres de large, c'était tout un ensemble. Ça comprenait bon le château, des cours intérieures, une chapelle. Alors à l'heure actuelle, on a déjà mis à jour une seconde tour en face de celle qui existe déjà, qui se voit très bien, et pas mal de murs d'enceinte du côté sud-est. Tout le côté sud-est a été découvert. Il y a des murs qui ont été découvert, qui était dans les ronces, dans les broussailles. Et puis en grattant, ils ont découvert les murs et toutes les fondations et ils ont consolidé, les maçons ont consolidé tout ça.
Dans ces travaux, vous êtes aidé par des architectes et des archéologues?
Oui, c'est sous la direction de l'architecte départemental, de l'archéologue du Conseil général, M. Grua, avec M. Saint-Pierre. Et ensuite, M. Cos, le directeur des bâtiments de France de l'Aveyron, qui viennent donner ses consignes.
Est-ce que vous avez mis en œuvre d'autres actions en dehors des travaux?
Alors, il y a eu tout le débroussaillage du site, parce que bon, il y a peut-être le château, tout ça, mais il y a tout un site tout le tout, où, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des rochers énormes, c'est à voir des cumulus de gros rochers, on se demande comment ils tiennent, là, comment ils sont arrivés là. Et la mairie, récemment, a acheté 30 hectares tout le tour. Dans ce terrain, il y a plein de chemins de randonnée. Et en plus, l'association, elle a installé 5 tables pique-nique.
Est-ce que l'association a d'autres projets pour l'avenir par rapport au site?
eh bien, elle aurait des projets culturels, parce que ça serait très intéressant, premièrement, surtout avec les écoles, les enfants des écoles, de faire connaître l'histoire du château, le Moyen-Âge, et en plus, y a toute la faune et la flore qu'il y a tout le tour. Et puis, en plus, il y a un point de vue magnifique là-haut, où vous voyez à perte de vue sur tout le Lévézou, jusqu'au loin les Pyrénées, par temps clair. Et en plus de ça, la mairie a acheté aussi une vieille maison, puis de la tour, disons. Cette maison est en train d'être restaurée. Cette année est prévue la toiture et la charpente et toute la menuiserie. Et dans cette maison, ça sera une maison d'accueil où l'on pourra faire des expositions. On peut envisager aussi un genre de petit musée pour tout ce qui va être découvert, parce que les fouilles vont continuer encore.
Vous proposez aux Aveyronnais de redécouvrir leur patrimoine ?
Mais c'est surtout ça. C'est dommage, on a un très beau patrimoine. Et il a été laissé longtemps à l'abandon. Et là, le groupe de bénévoles est très, très motivé, très, très dynamique. Pour l'instant, c'est l'idéal, comme on dit.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose, Michel Cayol ?
Alors, je dirais que l'été, la tour est ouverte tous les jours, en juillet et août, après-midi de 2h jusqu'à 19h, oui. En juin et septembre, c'est ouvert tous les dimanches après-midi. Nous assurons aussi les visites sur rendez-vous, s'il y a un quart ou s'il y a des... toute l'année. Je peux dire aussi que tous les derniers dimanches d'août, il y a le pèlerinage qui perdure depuis 1898. Ce qu'on veut, on veut faire connaître ce site parce qu'il mérite d'être connu. Parce que le point de vue qu'il y a sur le lac de Villefranche, sur tout le Lévézou, sur tous les environs. Parce que la tour se situe à 900 mètres d'altitude. Elle fait 20 mètres de haut, plus 10 mètres de piédestal de la Vierge. Ça fait un bel édifice.
(3A-246) Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des enfants trouvés, abandonnés, etc. Au travers des registres, alors le registre d'inscription des enfants trouvés et ensuite le registre des enfants assistés de l'Hospice de Sainte-Afrique. Donc là, on est entre 1848 et 1857. Et en fait, c'est intéressant parce que souvent, on est confronté à ces personnes-là. Mais justement, parce que c'était des enfants trouvés ou abandonnés, on n'a pratiquement pas d'informations sur eux. Et là, en fait, on peut retracer toute une partie de leur vie. Donc les enfants trouvés, ils étaient quand même relativement nombreux parce que entre les seules années 1848 et 49, on en trouve 63. Il y a à peu près autant de filles que de garçons, c'est pas, il n'y en a pas plus un que l'autre. Et par contre, ce qu'on remarque de suite, c'est qu'ils étaient abandonnés très rapidement parce que là, il y en a 50 à peu près qui avaient même moins de 5 jours. Et ensuite, ce sont plutôt des enfants bien plus âgés, 1 an, 2 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans. Donc c'est sans doute cela, plus on peut se dire que ça doit être des difficultés familiales plus qu'autre chose. Parce que l'Hospice de Sainte-Afrique avait vocation donc à s'occuper des malades forcément, des vieillards aussi, des personnes les plus pauvres, et des enfants qui étaient abandonnés ou à l'époque on disait exposés. Le principe c'était en gros que soit on les exposait, on les posé donc soit à l'église pendant un moment, puis après c'était devant l'hospice. Et à l'hospice, il y avait aussi ce qu'ils appelaient le tour de l'hospice. En fait, c'est une sorte de petite armoire sur pivot et qui permettait en fait de mettre l'enfant à l'intérieur et de le faire passer à l'intérieur de l'hospice, où il y avait une religieuse qui était en charge de surveiller et d'avertir ses collègues quand il y avait un nourrisson, enfin un enfant qui était présenté, quoi. Ces enfants trouvés, en général, on les remarque facilement par rapport à leur identité, en fait, parce qu'on leur donnait souvent qu'un prénom, ils n'avaient pas de nom de famille, ou alors s'ils avaient un nom de famille, c'était aussi un prénom. Ça pouvait être Maurice Charles, par exemple. Ensuite, donc, ces registres ils nous montrent que dès qu'ils arrivent, quasiment, le jour même ou le lendemain, ils sont placés chez des nourrices. Et là, en fait, on voit que les nourrices, c'est des femmes dans toute la région du Saint-Africain, voire même un peu plus, un large Saint-Africain, puisque ça va jusque Belmont, Rebourguil, Le Truel, Coupiac aussi. Et on voit que les enfants changeaient souvent de nourrice. C'est certainement parce que pour que la femme puisse être la nourrice d'un enfant, il fallait qu'elle puisse le nourrir. Donc, et à un moment, forcément, c'est biologiquement limité. Donc, a priori, on peut se dire que c'était ça. Donc, qui reste là dans ces registres, donc c'est les enfants les plus jeunes. Mais l'hospice en gardait la charge jusqu'à leur majorité, donc c'est-à-dire jusqu'à 21 ans à cette époque-là. Et après, on les retrouve sur un autre registre, c'est celui des enfants assistés. Où là, on voit que la plupart des enfants, c'est, donc comme je le disais, des enfants exposés. Il n'y a pas trop, a priori, de vagabonds, ce genre de choses. Pareil, toujours autant de garçons que de filles, à peu près, c'est pas un plus que l'autre. Et donc, à l'âge de 12 ans, l'hospice, en fait, les plaçait chez des gens pour qu'ils travaillent. C'était souvent les garçons, ils étaient ouvriers agricoles. Et les femmes, c'est plus diffus, c'est rarement précisé. On en voit quelques-unes qui sont bergères. Et après, d'autres, leur maître, comme ils disent, nous on dira plutôt leur tuteur, on peut se dire que c'était sans doute des domestiques, des choses comme ça. On voit aussi que souvent les jeunes filles bougeaient moins, peut-être parce qu'elles étaient domestiques dans une maison, attachées à une maison, etc. Donc il y avait du travail toute l'année, tout le temps. Alors que les garçons ont plus tendance à bouger régulièrement, sans doute aussi du fait des travaux agricoles qui sont plutôt saisonniers ou ces choses-là. Parce qu'eux, ils sont souvent précisés fermiers. Voilà, et après, ces registres, ils permettent aussi de donner un peu plus de détails qu'on n'a pas pour les autres personnes, en fait, sur la vie de ces enfants, parce qu'en fait, ça fait presque 10 ans de vie qui est administrativement notée. Donc, on les voit bouger d'un endroit à l'autre. On sait, par exemple, quand ils partaient à Montpellier, on sait que des fois, les femmes partaient à d'autres endroits pour se marier. On en voit certaines qui reviennent à l'hospice parce qu'elles étaient enceintes. Il y a parfois des moments de vie où on se dit que c'est un peu déroutant et pas forcément très heureux. Ou une jeune fille aussi. Elle, on sait ce qu'elle faisait, par exemple. On sait pourquoi elle travaillait, parce que son tuteur l'a ramenée à l'hospice. Il y a écrit entre parenthèses « pour cause de vol et abandon de troupeaux ». Donc en fait, c'est comme ça qu'on sait qu'elle était bergère, sinon. Donc ça fourmille de renseignements, du coup, sur une population qu'on connaît assez mal. Et du coup, ça permettrait, si on prenez le temps de l'étudier, de voir un petit peu plus, justement par rapport aux nourrices, pourquoi elles le faisaient, parce que même si on le sait, puisqu'elles étaient payées, donc ça fait sans doute pour elles un revenu substantiel non négligeable. Oui, et d'ailleurs les enfants aussi, il ne faut pas croire, les enfants assistés de 12 à 21 ans recevaient aussi un salaire qui leur était reversé. On le voit, il y a une colonne qui est dédiée à ça, qui précise, voilà, de telle période à telle période, il a reçu telle somme. Et parfois, et c'est notamment le cas pour les jeunes filles, ça précise salaire plus vêtements. Alors ça peut être les bas, les tabliers, souvent c'est les sabots aussi.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Faire par ici.
Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas écouté l'agenda de Radio Saint-Af, toi?
Sorties, concerts, expos, et même cinéma et météo, c'est ça l'agenda de Radio Saint-Af.
Et en plus, vous avez de la chance, c'est maintenant.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Maëlle.
Bonjour Elsa, alors que se passe-t-il ces jours-ci?
Aujourd'hui, l'association Croque la vie est présente à Sainte-Afrique pour accueillir les personnes touchées par le cancer ainsi que leurs proches. Rendez-vous à la maison de la famille de 16h à 18h.
Aujourd'hui, au lieu-dit à Sainte-Afrique, l'atelier Origami vous ouvre ses portes à partir de 18h30. À 20h, le groupe de chants contestataires donne de la voix. Et demain, c'est une soirée Gaston Couté qui vous est proposée avec la projection du film Ni Dieu, ni chaussettes. C'est à 20h30.
Cet après-midi, à Sainte-Eulalie de Cernon, les enfants de 4 à 12 ans sont invités à visiter la commanderie templière et hospitalière sur les traces du trésor du commandeur. Rendez-vous à 15h au point accueil de la commanderie, place de l'église.
Demain, la Maison de la Mémoire de Sainte-Afrique propose aux enfants de 8 à 12 ans un atelier modelage sur les statues menhirs. C'est de 14h à 17h et c'est gratuit. Pour s'inscrire, il faut appeler la Maison de la Mémoire.
Demain et vendredi, l'association Les Pieds Bleus invite les enfants de 6 à 12 ans à un stage intitulé « La famille oiseau ». Cui, 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 cui. À partir de carton, fil de fer et peinture, ils réaliseront une famille oiseau rigolote. Violaine Cousinet anime ce stage au local du CAC, au 14 rue Jean Moulin. Inscription au 06 87 97 08 01. Je répète, 06 87 97 08 01.
Demain à Millau, Charles Destef, poète d'origine miavoise, est l'invité de la galerie Passage à l'art. Il présentera et lira des extraits de son nouveau livre, Identité remarquable. C'est à 18h30.
Vendredi, l'ASA ATP, la ville de Millau, vous convie au spectacle intitulé Tempête sous un crâne, une adaptation originale des Misérables de Victor Hugo. C'est à 19h30 au théâtre de la Maison du Peuple à Millau.
Samedi 28 avril, l'association Art et Livres vous propose une soirée festive et conviviale à la découverte de l'œnologie. À cette occasion, Ghislaine Laurent, caviste à Rodez, vous fera partager son savoir et son amour du vin. Cette découverte se fera au rythme de lecture sur le thème de la vigne et du vin et au fil des plats concoctés par l'équipe du restaurant du Pont Neuf. C'est à 19h30 et le prix est de 28 euros. Il est nécessaire de s'inscrire avant samedi 22 avril en appelant au 05 65 99 03 32 ou à la radio et on transmettra. Les expositions.
L'Office de tourisme de Sainte-Afrique accueille une rencontre entre un maître verrier, Abel Ange Clermont, et un sculpteur, Dominique Lutz, à voir jusqu'à la fin du mois d'avril.
Au lieu-dit à Sainte-Afrique, Magali Ferrière-Julliard expose des broderies en hommage à la Pachamama, la déesse terre des Indiens d'Amérique du Sud.
À Saint-Sever-du-Moustier, Marie Espalieu expose ses œuvres au musée des arts buissonniers. Le vernissage, c'est samedi à 17h et l'expo est à voir jusqu'au 9 juin. À l'Office de tourisme de Belmont-sur-Rance, exposition des peintures de Jean Servet.
La bibliothèque municipale de Millau vous invite à découvrir une exposition de planches originales intitulée « Dessine-moi un mouton ». Trois histoires d'animaux sur des textes de Paul Autran et des illustrations de Daniel Castelli. C'est à voir jusqu'au 2 mai.
Cinéma.
Les cinémas de Millau projettent à 20h45 sur la piste du Marsupilami, Battleship, Lockout et Nouveau Départ.
Et nous sommes à J-4 du premier tour de la présidentielle. Il fut un temps où le pouvoir revêtait d'autres atours que ceux dont il se pare aujourd'hui. Jean-Paul Marat, dans son livre « Les chaînes de l'esclavage », ouvrage publié en 1774 en Angleterre, dénonce toute forme de tyrannie ainsi que la corruption de la cour du roi George III d'Angleterre. Extrait. Tandis que les peuples se livrent au sommeil, le prince qui se voit environné d'hommes peu soigneux d'éclairer sa conduite entreprend de porter quelques coups à la liberté. Pour sonder le terrain, il hasarde quelques propositions propres à favoriser ses vues secrètes. Si elle passe, c'est un fondement sur lequel il se hâte de bâtir. Si elle est farouche, il a recours à la ruse et cherche à colorer ses dessins. Pour le bien de l'État, ce beau prétexte, dont ceux qui gouvernent couvrent leurs projets ambitieux, est sans cesse dans sa bouche, comme si le bonheur public lui tenait fort à cœur. Il demande qu'on se fie à sa bienveillance, puis, sans honte de se parjurer lâchement, il prend les dieux à témoin de la pureté de ses intentions, de son respect pour les lois qu'il se dispose à violer. Et les peuples ont la sottise de s'abandonner à ses serments. Un peu d'histoire, ça peut pas faire de mal. Bonne méditation à toutes et à tous, et à demain. À demain, Maëlle.
À demain, Elsa.